Histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 3. Ces individus de ville et indignes conditions.
Deuxième partie.
Les serviteurs sous contrat étaient achetés et vendus comme des esclaves. Une annonce parue dans la Virginia Gazette du 28 mars 1771 nous informe que
« Le justicia vient d'arriver de Leadstone avec à son bord une centaine de serviteurs, hommes, femmes et enfants, tous valides. La vente débutera le 2 avril. »
Les coups et les fouets se pratiquaient communément. Les domestiques femmes étaient souvent violées. Les archives de la Cour de justice du Maryland font état de nombreux suicides chez les serviteurs sous contrat. En 1671, Berkeley, gouverneur de Virginie, note qu'au cours des années précédentes, 4 serviteurs sur 5 mouraient de maladies assez rapidement après leur arrivée. La plupart étaient de misérables enfants ramassés par centaines dans les rues des villes anglaises et expédiés en Virginie pour y travailler. Bien qu'il existât des lois coloniales pour réfréner les excès de violence contre les serviteurs, elles n'étaient que rarement appliquées, si l'on en croit la très complète étude de Richard Morris, « Government and Labor in Early America ». Les serviteurs ne pouvaient pas participer au jury. Les maîtres, eux, le pouvaient. En outre, ne possédant rien en propre, les serviteurs ne pouvaient pas voter. Certains serviteurs se révoltaient, mais on ne rencontre pas sur le continent le même genre de soulèvement général que ceux qui avaient pu se produire, par exemple, à la Barbade dans les Antilles. Abbott Smith suggère que les chances de succès étaient sans doute plus grandes sur une petite île. Dans le comté de Gloucester, d'autres serviteurs préparèrent un soulèvement général. Dénoncés par l'un d'entre eux, 4 des conspirateurs furent exécutés. On accorda la liberté aux délateurs ainsi que 5000 livres de tabac. Malgré la rareté des soulèvements de serviteurs sous contrat, la menace subsistait et les maîtres vivaient dans la crainte. Jugeant leur situation intolérable et comprenant que les soulèvements étaient voués à l'échec, dans cette société de mieux en mieux organisée, les travailleurs sous contrat tentèrent leur chance individuellement. Les archives des cours de comté de Nouvelle-Angleterre font état d'un serviteur qui avait donné un coup de fourche à son maître. Un autre fut accusé d'avoir levé la main sur son maître, de l'avoir jeté à terre 2 fois de suite en faisant couler le sang, d'avoir menacé de lui tordre le cou en brandissant une chaise. Une domestique fut traînée devant la justice sous prétexte qu'elle était mauvaise, indisciplinée, rétive, négligente, maladroite et désobéissante. Après la participation d'un certain nombre de serviteurs à la révolte de Bacon, la Virginie vota des lois qui punissaient les serviteurs rebelles. 2 compagnies de soldats britanniques furent cantonnées en Virginie pour parer à tout trouble futur. Leur présence était justifiée en ces termes auprès du commissaire royal au commerce et aux plantations de l'époque.
La Virginie est aujourd'hui plus pauvre et plus peuplée que jamais. On y craint grandement des soulèvements parmi les serviteurs. Étant donné le terrible état de nécessité où ils se trouvent et le manque de vêtements, ils pourraient bien décider de piller les entrepôts et les navires.
Fuir. Était finalement plus facile que se révolter. Plus de la moitié des colons qui abordèrent sur les rives de l'Amérique du Nord coloniale y arrivèrent en qualité de travailleurs sous contrat. La plupart étaient anglais au XVIIe siècle, allemands et irlandais au XVIIIe siècle. Ils étaient de plus en plus remplacés par des esclaves lorsqu'ils choisissaient la liberté ou que leur temps était fini. Néanmoins, en 1755, les serviteurs blancs représentaient toujours 10% de la population du Maryland. Que devenaient ces domestiques une fois libres ? De nombreuses histoires édifiantes nous les montrent devenus prospères, propriétaires terriens, ayant acquis une certaine respectabilité sociale. Pourtant, Ebbot Smith, après une étude détaillée de la question, considère pour sa part que la société coloniale était
rien moins que démocratique et en tout cas nullement égalitaire. Elle était dominée par des individus assez riches pour se permettre de faire travailler les autres à leur compte.
En outre,
ces hommes étaient rarement issus d'un milieu de travailleurs sous contrat et quasiment aucun ne l'avait été lui-même.
Si l'on veut bien passer sur le mépris que manifeste Abbot Smith à l'égard de ses serviteurs, qu'il considère comme
des hommes et des femmes sales et paresseux, rudes, ignorants, lubriques et souvent criminels,
qui
volaient, vagabondaient, avaient des enfants naturels et propageaient dans la société leurs maladies honteuses,
nous découvrons
qu'un individu sur 10 était valide et fort et pourrait, avec de la chance, survivre au travail saisonnier, aller au bout de son contrat, obtenir des terres et devenir relativement prospère.
Sur ces 10, un autre encore, peut-être, pourrait devenir surveillant ou artisan. Les autres, c'est-à-dire les 80% qui étaient
sans nul doute des individus paresseux, sans avenir et déficients, mouraient pendant leur service, retournaient ensuite en Angleterre ou devenaient de misérables blancs.
Il apparaît donc assez clairement que la distinction de classe s'est accentuée dès l'époque coloniale. Le fossé entre pauvres et riches devint de plus en plus marqué. En 1700, il y avait environ 50 familles fortunées en Virginie, dont la richesse s'élevait à 50 000 livres, une somme énorme pour l'époque, et qui vivaient du travail des esclaves noirs et des serviteurs blancs sous contrat, possédaient des plantations, siégeaient au conseil de la colonie et exerçaient les magistratures locales. Dans le Maryland, les colons étaient gouvernés par un grand propriétaire terrien, auquel le roi lui-même avait accordé un droit de contrôle total sur la colonie. Il y eut entre 1650 et 1689 plusieurs soulèvements contre cet individu. Les constitutions fondamentales des Carolines avaient été rédigées dans les années 1660 par John Locke, généralement considéré comme l'inspirateur philosophique des pères fondateurs et du système américain. La constitution de Locke met en place une aristocratie de type féodal, au sein de laquelle 8 barons posséderont 40% des terres de la colonie, que seul un baron pourra gouverner. Lorsque la couronne administra directement la Caroline du Nord après un soulèvement contre le système de propriété dans cette colonie, de riches spéculateurs se saisirent de près de 200 000 hectares des meilleures terres le long de la côte. Les pauvres, désespérant de posséder eux aussi des terres, s'installèrent sans droit de propriété, le squatting, sur des parcelles de terrain, et luttèrent, tout au long de la période pré-révolutionnaire, contre la prétention des grands propriétaires à leur faire payer des loyers. En 1700, les autorités religieuses de la ville de New York demandèrent une attribution de fonds au conseil municipal.
Les appels à l'aide des faibles et des miséreux nous paraissent extrêmement préoccupants.
Dans les années 1730, on commença à exiger régulièrement la mise en place d'institutions spécifiques afin d'empêcher que
D'innombrables mendiants viennent vagabonder quotidiennement dans les rues.
Une résolution du conseil municipal stipule que...
Étant donné leur état nécessiteux et misérable, le nombre et l'augmentation constante des pauvres de la ville représentent un phénomène important. Et divers méfaits sont commis dans ladite ville par ceux qui par paresse ou par désœuvrement se livrent à la débauche et sont passés maîtres en matière de vol et de dévergondage. Il y sera remédié par l'édification d'un bâtiment sain, solide et approprié.
Ce bâtiment en briques de deux étages prit le nom
d'asile de pauvres, hospice de travail et maison de correction.
Une lettre adressée en 1737 au journal new-yorkais de Peter Zenger dresse un portrait des malheureux gamins qui traînaient alors dans les rues de New York.
Objets d'apparence humaine, à moitié morts de faim et de froid, leurs vêtements laissent paraître coudes et genoux, cheveux hirsutes. De 4 à 14 ans, ils passent leur journée dans la rue, puis ils sont mis en apprentissage forcé pendant 4, 5 ou 6 ans.
La population des colonies s'accrut rapidement au cours du XVIIIe siècle. Les colons anglais furent rejoints par les Irlandais, les Écossais et les Allemands. Les esclaves noirs arrivèrent en masse. De 8% de la population en 1690, ils passent à 21% en 1770. Quant à la population globale, de 250 000 en 1700, elle bondit à 1 600 000 en 1760. L'agriculture se développait en même temps que les petites industries. Le transport maritime et le commerce crurent eux aussi. Boston, New York, Philadelphie et Charleston doublèrent, voire triplèrent de taille. Boston, New York, Philadelphie, Charleston, doublèrent, voire triplèrent de taille. Une croissance dont les classes aisées tirèrent l'essentiel des profits, tout en monopolisant tous les pouvoirs. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.